Radio Kapi.
À la présentation, Devin Bwinga.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Constant Mutamba désormais dans le viseur du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Mvonde saisit l'Assemblée nationale par un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre de la Justice. Constant Mutamba est soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars américains dans l'affaire de 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Les détails dans quelques minutes. Et puis lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouvernement provincial vient encore de trouver une formule. Il vient de ressusciter la loi interdisant la circulation de gros camions remorques et ceux transportant les ciments et autres matériaux pendant la journée. Nous en parlons dans ce journal. Notre invité est le responsable de la Commission nationale pour les réfugiés en territoire d'Arou. Karim Hadidi va nous parler de 15 000 réfugiés sud-soudanais qui fuient les combats dans leur pays et qui se réfugient en RDC, dans le territoire d'Arou, en Ituri précisément. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Réquisitoire contre Constant Mutamba sur un soupçon de détournement, une réalité. La nouvelle est tombée ce soir. Le procureur général, près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, saisit l'Assemblée nationale par un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Le ministre est soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars américains dans l'affaire de 39 millions destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Après lecture du réquisitoire du procureur au cours de la plénière de ce mercredi, l'Assemblée nationale met en place une commission spéciale en vue d'auditionner le procureur et Constant Mutamba. Michel Kifindangoy.
À en croire le président Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale ne sera jamais un obstacle à la justice pour qu'elle fasse son travail dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vital Kamerhe.
Je vais être saisi par le procureur général afin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux.
De quoi le procureur général près la Cour de cassation reproche-t-il concrètement au ministre de la Justice, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale.
La société Zion a ouvert le compte un jour après un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains. Il a été effectué sur ordre du ministre d'État. Ministre de la Justice, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics.
Conformément à la Constitution et au règlement intérieur, si l'Assemblée nationale autorise l'audition du ministre de la Justice et que sa culpabilité était établie, le procureur général près la Cour de cassation devrait introduire un nouveau réquisitoire sollicitant la levée des immunités de Constant Mutamba.
Deuxième titre de ce soir, lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Le gouvernement provincial vient encore de trouver une formule. Il vient de ressusciter la loi interdisant la circulation dans la journée de gros camions remorques et ceux transportant les ciments et autres matériaux, voire ceux des compagnies brassicoles qui distribuent la boisson à travers la ville. Désormais, ils ne peuvent circuler que de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue de la ville. Cette mesure est prise évidemment pour lutter contre les embouteillages, mais comment cette décision, qui n'est pas la première, est-elle accueillie dans le secteur de transport? Suivez ce reportage de Nancia Tambo.
D'après les communiqués du ministère provincial des Transports et Mobilités Urbaines, cette mesure entre en vigueur à partir de ce mercredi 21 mai. Ces restrictions des horaires pour le véhicule de 20 tonnes ou plus concernent les camions remorques, ceux transportant des matériaux de construction tels que le ciment, le fer à béton, cailloux, sable, le bois, le grume et autres. Ajoutez à cela le véhicule distribuant la boisson à travers la ville. Tous ces véhicules sont autorisés à circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa uniquement de 22h à 5h du matin. Selon le gouvernement provincial, ces mesures sont parmi d'autres qui visent à juguler les embouteillages et fluidifier la circulation routière à Kinshasa. Cette mesure est saluée du côté des conducteurs de petits véhicules qui pensent que le gros camion le mettait en insécurité. Docteur Touré.
Ce qui concerne la présence de poids lourds en pleine journée dans les grandes artères de Kinshasa, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, déjà, ils constituent un sérieux problème. Soit ils sont à la cause d'un ralentissement de la circulation, soit ils sont à la cause d'un embouteillage. C'est vraiment un sérieux problème avec le poids lourd sur les artères de Kinshasa.
Notez que cette nouvelle mesure n'est pas bien accueillie par les conducteurs de gros véhicules.
Comme il fallait s'y attendre, évidemment, les conducteurs de gros véhicules boudent cette mesure. Outre le manque de sécurité la nuit dans certains coins de livraison de marchandises, ils évoquent aussi le fait que leurs contrats actuels doivent être revus pour inclure les avantages habituellement liés au travail de nuit. Ils plaident pour la surséance de cette décision en attendant les discussions approfondies avec notamment le ministère du Travail ainsi que celui des Transports pour la prise en compte de ces aspects. André Tshikoji, président national des Forces ouvrières du Congo et de l'intersyndicale professionnelle du secteur de transport, explique le point de vue de ces conducteurs au téléphone de Babel Pongo Massimango.
Les travailleurs ne sont pas d'accord. En tout cas, depuis hier, avant-hier, il y a des voix qui s'élèvent dans tous les sens. On aurait souhaité que ça soit d'abord soumis à une discussion entre les syndicats du secteur que nous sommes et les autorités. Ce n'était pas le cas. On annonce quelque chose, immédiatement on veut appliquer. Par rapport même à la législation du travail, il y a des choses qu'on doit quand même discuter, revoir, parce que là, on nous contraint à un travail de nuit. Les contrats signés même par les travailleurs n'entrevoient pas cet aspect. Là, on peut bien le faire, mais il faut mettre les travailleurs dans les conditions qu'il faut pour faire ce travail-là de nuit. Il y a des avantages liés à ce temps de travail qu'on doit vraiment observer à la rigueur. Pour nous, on doit s'asseoir, nous devons discuter avec les autorités, en tête le ministre du Travail et ses services, associer le ministère des Transports pour trouver une juste mesure qui doit permettre à ces travailleurs sacrifiés de se retrouver un temps soit peu.
Un retour qui fait parler de lui, c'est celui du gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, signe son retour après 4 mois d'absence forcée par l'occupation de la ville de Bukavu le 16 février 2025. À son arrivée hier mardi à Uvira, chef-lieu de la province, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a appelé à la cohésion sociale de différents groupes tribaux. Revenons sur ce retour avec Rachel Kiesse.
Ce retour est perçu à Uvira comme un soulagement face aux peines que la population de la province du Sud-Kivu endure suite à la guerre. À l'entame de son meeting populaire, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a fait savoir qu'il est porteur du message du chef de l'État annonçant le début de la fin de la guerre. Sur place à Uvira, cette annonce n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme au sein de la population. Un acteur de la société civile d'Uvira a déclaré, je cite, pour nous, la fin de la guerre signifie la cessation des bruits de bottes, le retrait de rebelles des territoires occupés et la reprise des activités socio-économiques. L'appel du gouverneur Purusi à la cohabitation pacifique a résonné dans les oreilles de couches de la population de la partie sud de la province du Sud-Kivu comme une interpellation. Les uns et les autres s'accusent mutuellement de collaborer avec l'ennemi. En plus, le gouverneur a rappelé que certains actes civils posés sous la rébellion tomberaient caducs. Jean-Jacques Purusi rentre au Sud-Kivu dans un contexte économique et social très touché par la guerre et où le trafic entre Bukavu et Uvira est coupé.
Pendant ce temps, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC dénonce vigoureusement une série de mesures prises par les responsables de la rébellion de l'AFC M23 du côté du Nord Kivu. Mesures relatives à la gestion des universités à Goma. Exemple, celle obligeant les établissements de couper tout lien avec la tutelle de l'ESU à Kinshasa. Dans sa lettre du 19 mai, la ministre de l'ESU condamne ces décisions qui, selon elle, tendent à désarticuler et à discréditer les études supérieures et universitaires dans les territoires sous occupation. Le professeur Sombo Marie-Thérèse souligne que son ministère ne tolère ni n'accepte toutes ces mesures. D'autres précisions avec Étienne Lissumbu.
La ministre de l'ESU condamne, entre autres, l'injonction faite aux établissements en conférence provinciale de couper tout lien avec la tutelle de l'ESU à Kinshasa. En outre, la désignation par la rébellion de la conseillère du gouverneur comme instance chargée de la gestion des établissements, tout comme le gouvernorat comme instance de collecter les frais destinés au contrôle de la scolarité, tâche dévouée à l'administration du ministère de l'ESU. Le professeur docteur Marie-Thérèse Sombo rappelle la nécessité du respect du droit inaliénable favorable à une éducation de qualité réservée à tous les enfants ou étudiants de la RDC. La ministre appelle ainsi toutes les instances internationales chargées de l'éducation et de la protection des droits humains aux fins de se saisir de ces dérives et d'y apporter les concours nécessaires quant à la résolution du problème créé par ces mesures décriées.
Et puis cette interrogation, qu'est-ce qui se passe à Jina dans le territoire de Djougou? En tout cas, près de 54 000 élèves du primaire et du secondaire de ce coin de l'Ituri ne vont plus à l'école depuis lundi. À la base, des combats qui opposent les FRDC aux miliciens du groupe armé Zaïre. Une situation qui intervient malheureusement à la veille des épreuves de fin d'année, déplorent les responsables des établissements scolaires dans la zone. Floribert Ndjombou, préfet de l'Institut de Jina, demande aux autorités compétentes de mettre tous les moyens pour sécuriser les enfants qui, eux aussi, ont droit à l'éducation. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Nous devions commencer la période de réviser des examens. Les enfants ne viennent plus à l'école. Même demain, il n'y a pas espoir que les enfants viennent. Ça aura des conséquences sur la formation des enfants. Les temps qu'on a perdu avec la grève des enseignants, on a eu quand même des cours supplémentaires. Les enfants se sont rattrapés. Les enfants étaient bien activés aussi pour venir à l'école. Mais c'est seulement la guerre qui a déstabilisé maintenant. Ils ont perdu le courage de venir à l'école. Ils croient que peut-être la guerre peut encore reprendre, qu'on puisse stabiliser la paix quotidienne des meetings pour demander aux enfants de revenir à l'école et les parents aussi qu'ils envoient les enfants à l'école. Et que les autorités fassent ces meetings-là pour encourager les parents et les enseignants, même les élèves aussi à venir à l'école.
Autre difficulté, c'est celle vécue par les infirmières et infirmiers de la zone de santé rurale de Biéna, au Nord Kivu. Ils mènent une vie difficile à la suite de la fermeture de plusieurs structures sanitaires dues à l'activisme des rebelles ADF dans leur milieu. Ces prestataires de santé, réduits au chômage, disent souffrir du manque de prise en charge par l'État et des autorités sanitaires. Ils exigent le paiement de leur salaire, primes de risque ainsi que le rétablissement de la paix dans la région. Mabel Kakule Kassiri, président du comité de l'ordre des infirmières et infirmiers de Biéna, explique cette situation dans cet extrait recueilli par André Kitenge.
Plusieurs infirmiers sont à déplacement. Ils ont quitté le milieu où ils ont du travail pour se déplacer vers le milieu supposé sécurisé. Dans le milieu d'asile, ils n'ont pas de travail. Ils vivent vraiment le calvaire. Le gouvernement d'instaurer la sécurité dans tous les lieux où sont implantées les structures de soins. Le gouvernement de prendre en charge les infirmiers à leur payer la prime de risque et le salaire de l'État. Aussi, il recommande à ce que le gouvernement puisse réfléchir comment encadrer les infirmiers qui sont à fuite, qui sont à déplacement et qui ont quitté leur lieu de travail.
L'hôpital général de référence de Kitatumba Butembo, aussi en difficulté, il peine à assurer la prise en charge médicale des prisonniers malades et le médecin directeur de cet hôpital lance un cri de détresse tout en appelant le gouvernement à assumer ses responsabilités. Esdras Massingo lance un appel à la solidarité. Il souligne que 14 détenus sont actuellement internés dans cet hôpital sans aucune assistance de l'État. Docteur Esdras Massingo s'est exprimé lors d'une visite caritative effectué par l'ordre des infirmiers de cette ville du Nord Kivu le week-end dernier. Suivez-le dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Pour le moment, nous sommes autour de 15 détenus qui sont alités, toutes catégories confondues, surtout les deux services, médecine interne et chirurgie. Leur prise en charge, normalement, revient au gouvernement congolais. Mais le constat, c'est que c'est l'hôpital qui est en train de prendre en charge sur presque tous les plans jusque-là. Malheureusement, les moyens sont très limités également. Mais comme nous ne savons pas aussi observer les malades, salaires, offrir des soins, nous essayons de faire le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir donner tout ce dont ils ont besoin, avec l'espoir que peut-être un jour le gouvernement pourra nous venir au secours. Leur vivre proviendrait de la prison. Effectivement, il y a des vivres qui proviennent de là, mais ce n'est pas malheureusement tous les jours. Mais les personnes de bonne volonté également, quand ils passent par l'hôpital, ils voient leur état, ils ne tardent pas de pouvoir allonger la main. Il arrive même des fois, les personnels soignants eux-mêmes touchent dans leur poche quand ils trouve que les prisonniers n'ont rien à manger pour qu'ils ne puissent pas prendre les médicaments, sa nourriture.
Actualité internationale.
Donald Trump et Cyril Ramaphosa se rencontrent ce mercredi à Washington sur fond de tension, le président sud-africain souhaitant relancer une relation bilatérale minée par les accusations infondées de son homologue américain sur un prétendu génocide de fermiers blancs en Afrique du Sud. Le président sud-africain arrivé dès lundi à Washington, mais qui est resté discret, a dit souhaiter remettre sous les rails la relation avec les États-Unis, alors que le président américain affirme sans preuve tangible que les blancs sont victimes d'un génocide en Afrique du Sud, le pays de l'ancien régime de l'apartheid.
L'invité.
Plus de 15 000 réfugiés sud-soudanais qui fuient les combats dans leur pays ont trouvé refuge ces derniers jours en RDC, dans le territoire d'Arou. Quelles sont les dispositions prises pour leur encadrement, mais surtout pour éviter que des personnes porteuses d'armes profitent de ces déplacements de population pour entrer sur le sol congolais face à la porosité des frontières de la RDC? Karim Hadidi, le responsable de la Commission nationale pour les réfugiés en territoire d'Arou, répond aux questions de Jean-Claude Lokidi. Les suivez.
Karim Hadidi Nongo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On enregistre de plus en plus un flux des réfugiés en provenance du Soudan du Sud. La semaine dernière, on avançait les chiffres de près de 10 000 personnes qui avaient franchi la frontière congolaise en provenance du Soudan du Sud. Et nous apprenons qu'ils sont installés pour l'instant donc à Kolé, au Kaba ou l'Endéré, jusqu'à quelques mètres de la frontière entre les deux pays. Cependant, aucune disposition n'est prise pour leur accueil. Où passent-ils la nuit? Où trouvent-ils à manger pour les personnes malades, par exemple, et les femmes enceintes? Est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence pour leur venir en aide?
D'abord, il faut que les présences soient avérées. Donc, on travaille toujours d'abord la documentation, parce que les alertes, il y en a. Mais il y a aussi des alertes qui concernent des mouvements pendulaires. Les gens se replient en RDC le temps des combats et rentrer chez eux. Donc il faut que aussi la présence soit consistante et réelle. Nous avons travaillé sur la documentation de la présence de ces demandeurs d'asile. Étant donné que les combats se poursuivent, nous pensons que nous avons largement dépassé 15 000 sans prendre de grands risques, parce que les arrivées continuent de se poursuivre. Voilà maintenant que des chiffres sont établis, que les autorités ont confirmé, que nous avons accompli une descente multisectorielle avec le partenaire HCR et les partenaires de mise en œuvre accompagnés des autorités, où des entretiens de protection ont été faits avec différentes parties. Alors, je peux vous dire que oui, effectivement, en ce moment précis, à part la compassion et la solidarité des populations et des communautés hôtes, il n'y a rien qui est mis en place. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil et ont quitté, ils sont dépourvus et vulnérables car ils ont quitté leur pays d'origine dans des circonstances de violence. Donc c'est une fuite devant les violences et ils ont très peu d'effets avec eux, certains pas du tout. Ils sont dépourvus et démunis de tout.
Et pour éviter justement ce qui était arrivé à l'est de la RDC, précisément dans le Kivu, où en 1994, par exemple, des hommes armés étaient entrés sur le sol congolais avec des armes, est-ce que sur place à Arou, les services de sécurité vous accompagnent-ils donc pour vérifier leurs bagages, de peur de faire entrer, par exemple, au pays, que certains combattants, par exemple, puissent passer à traverser la frontière avec des armes, ce qui risque, bien entendu, d'entraîner des conséquences graves un peu plus tard, quoi?
Écoutez, le risque zéro n'existe pas. Ça, personne ne peut vous le garantir, parce que les frontières sont relativement poreuses et il y a beaucoup de points de passage. Cependant, les services de sécurité et de défense font leur travail et les autorités ont aussi un œil attentif sur les personnes qui se sont présentées et sur leur comportement et éventuellement sur l'existence d'armes ou non. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'alerte. Il s'agit de populations civiles aussi quand même. Si des hommes armés se sont cachés parmi eux, on ne sait pas les identifier comme ça. Mais les services de sécurité font leur travail afin que cela ne se produise pas. Si nous procédons justement à l'enregistrement par les autorités locales de ces familles de demandeurs d'asile, c'est bien parce que les autorités locales connaissent leur population et savent distinguer un réfugié, un demandeur d'asile d'un Congolais et connaissent bien mieux le terrain que nous. à partir de des listes établies. Nous avons donc dénombré des chiffres précis ainsi que des localisations et nous pouvons donc faire rapport à la hiérarchie pour que les assistances ou les moyens, la collecte des ressources soit entamée pour qu'on puisse apporter assistance à ces personnes. Donc oui, la situation de l'arrivée aux frontières de grand nombre de personnes qui résident dans des localités directement frontalières est une situation qui présente certains aspects sécuritaires sous tension dans ce cas-là. Parce que le village de Okaba, qui accueille plus de 10 000 personnes, est sur la ligne frontalière. Il n'est pas à 3 kilomètres, il est sur la ligne frontalière. Il longe, il borde la route frontalière, la route neutre.
Karim Adidi Nongo, je vous dis merci.
Je vous remercie.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Jude Mister Bilanda, à Richard Junior Kamunga et à Billy Landry Betou. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi.